Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
À l'heure des débats sur les dragues, aujourd'hui on va parler de surpolarisation des opinions. Et on parle de surpolarisation des opinions aujourd'hui avec deux invités. On attend encore le deuxième, Philippe Lorange. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et on recevra ensuite Philippe Léger qui se joindra à la discussion. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation comme tous les vendredis. Et cette fois-ci, c'est en direct. Donc aujourd'hui, on va parler de surpolarisation. Vous avez pu voir dernièrement que ce soit la question de la CBC avec Twitter et Pierre Poilievre, que ce soit aussi la question des dragues, que ce soit les questions de théorie du genre. On peut voir deux camps qui s'affrontent, qui ne partagent pas vraiment les mêmes idées, mais qui, au lieu d'accepter la discussion et d'accepter les gens, échangent, se campent sur leur position et partent dans un affrontement que Gramsci et les autres, d'autres théoriciens pourraient considérer comme le meilleur affrontement à faire. Philippe, ma première question, Philippe Lorange, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ah, vaste question, mon Dieu.
Ouais.
Mais pour revenir un peu quelques années auparavant, je me rappelle que Mathieu Bocoté nous avertissait que le débat était en train de se radicaliser. Il disait souvent, vous voyez, la démocratie libérale, la démocratie respectueuse, mais du moins respectueuse au sens, on sait qu'on doit se diviser, c'est normal, mais on le fait quand même dans le respect. Il disait, ça de plus en plus, ça va disparaître, c'est en déclin, et il faisait un éloge du conflit civilisé, éloge que j'appuie à 100%. Puis là, moi, à l'époque, je me disais, je pense qu'il exagère quand même un peu, parce que j'étais capable de parler avec des gens de partout, puis je remarquais que dans l'actualité, il y avait des gens de toutes les tendances qui étaient quand même capables de se parler, de s'entendre. Mais on dirait que depuis peut-être 2020, la pandémie, c'est comme si tout à coup, il y a eu une polarisation qui s'est vraiment accentuée de manière importante, à mon humble avis, selon mon observation. Et ça nous mène au débat qu'on a aujourd'hui, notamment ceux que tu as nommés, et qui se multiplient de semaine en semaine. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on est justement dans un dialogue de sourds, comme tu le constates toi-même. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est comme si chacun veut vivre dans sa cloche de verre.
Ouais.
Puis là, on a envie de se dire où est l'élément de convergence pour essayer d'avoir un terrain d'entente, un terrain de discussion.
Et sur cet élément de convergence, il y a notre deuxième invité, Philippe Léger. Bonjour Philippe.
Bonjour Julien.
Tu avais pu discuter la semaine dernière dans ta chronique au Journal de Montréal de cette question, de cette importation, par exemple, des guerres culturelles qui empêchent cet élément de convergence, cet élément de discussion d'arriver dans le cadre de la société québécoise. C'est quelque chose où on n'est pas vraiment commun. Il y a ne serait-ce que 10 ans ici et qui se multiplie de plus en plus. Certains y voient un bénéfice politique. Mais de l'autre côté, on va reprendre un peu une chronique que Gérard Bouchard avait fait dans le Devoir au début de la pandémie, avec l'arrivée des théories conspirationnistes, un affaiblissement de la pensée. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu dirais de ça?
Bon, d'abord, ma chronique dans le Journal de Montréal, je pense que qu'est-ce qui est important de dire, c'est une courte chronique, hein, donc on n'a pas le temps de tout dire et tout expliquer.
C'est limité à 150 mots.
Non, mais je pense qu'une société, c'est normal qu'elle soit traversée de différences passionnelles, qu'elle ait des différences marquées de point de vue, de façon de concevoir la société. C'est pas ça que je niais dans mon papier. Par contre, ce que je vois s'installer tranquillement au Québec, pour moi, je ne sais pas si c'est une guerre culturelle à l'américaine, parce que la guerre culturelle à l'américaine, qu'on l'analyse profondément, qui a été théorisée dans les années 90 sur des questions comme l'avortement, mais aussi des questions morales, des questions nationales aux États-Unis, qu'on l'analyse assez profondément, on s'aperçoit que ce n'est pas le même climat qu'ici. Chez les Américains, par exemple, ils vont avoir une difficulté, par exemple, sur les relations amoureuses qu'un républicain soit avec une démocrate, par exemple. Donc, dans ce genre, ces familles-là ne se mélangent pas. Je ne pense pas qu'on est dans ce climat-là au Québec, bien sûr que non. Par contre, peut-on parler d'une guéguerre culturelle au Québec, pour reprendre l'expression, là? Peut-on parler d'un climat de guerre culturelle? Je crois que de plus en plus, bien sûr, ce sont sur les questions identitaires, qui est la question peut-être centrale de notre époque. Quand je parle des questions identitaires, je parle des questions larges, le triptyque, laïcité, immigration, et puis langue. Peut-être que sur ces dossiers-là, on est dans un climat de guerre culturelle où deux camps s'affrontent. Et parfois, j'ai l'impression, se légitime mutuellement en se répondant. Et bien souvent, pour pratiquer le métier de chroniqueur, j'ai l'impression que le débat public est parfois asphyxié par ces deux courants-là de pensée qui sont extrêmement présents dans les médias. Et quand on est un chroniqueur qui essaie de faire sa place tranquillement dans le monde médiatique, dans le débat public, je pense qu'il y a une certaine prime à adopter complètement un discours d'un côté ou de l'autre parce que, dans l'environnement médiatique qui est le nôtre, on cherche, quand on veut représenter sur les plateaux de télévision, de radio, qu'on veut incarner une position politique, on cherche quelqu'un qui représente un courant politique clair.
C'est ça.
Donc, voilà ce que, essentiellement, j'essayais d'expliquer dans mon papier du Journal de Montréal.
Philippe, parlons de cette asphyxie, par exemple, cette asphyxie des idées, cette asphyxie un peu du débat, de la tangente. Est-ce que c'est problématique pour toi, par exemple, dans le contexte québécois? Est-ce qu'il y a un moyen de contourner ça ou est-ce qu'on doit, de façon de parler, c'est un cheminement naturel de l'évolution des débats actuellement?
Ben non, c'est sûr que c'est un problème parce que là, bon, comme je disais tout à l'heure, si on a de plus en plus de difficultés à discuter, ben là, c'est très mauvais pour la démocratie, je pense, parce que de plus en plus, les tendances dominantes vont vouloir s'affermir. Cela dit, moi, je reviendrai avec un concept qu'on entend souvent en France, qui est la tenaille identitaire. Puis que j'ai fait l'objet d'un texte qui va paraître bientôt, qui...
Autopromotion.
Oui, c'est ça. On se permet... ça. Mais qu'est-ce que c'est la tenaille identitaire? En France, on dit souvent, ben, d'un côté, il y a les « woke », donc qui sont dans les luttes identitaires particulières, genre je suis un noir, je suis une femme, etc. Et on dit de l'autre côté, il y aurait l'extrême droite identitaire, etc. Donc on met comme une équivalence entre d'un côté, justement, bon, la gauche qui est trop radicale, puis on dit de l'autre côté, la droite serait trop radicale elle aussi. Cela dit, moi je remets en question cette manière de voir les choses, parce que ce que je pense, c'est que le wokisme est de plus en plus hégémonique dans la fonction publique, les universités, plusieurs écoles. On le voit aussi dans les médias. Puis la morale dominante est pas mal très dominée par le wokisme. Tandis qu'à droite, je pense pas qu'on a affaire forcément à une extrême droite, même si ça existe, ces courants-là. Mais celle qui est souvent dénoncée comme extrême droite n'est pas aussi extrême qu'on le dit. Et elle n'a pas du tout le même pouvoir sur les mentalités, si on veut, sur la propagation des idées, que le fait le wokisme. Donc pour moi, il n'y a pas une équivalence entre ces deux positions-là, du moins en termes de pouvoir institutionnel, si on veut. Donc quand on dit souvent, ben, d'un côté, il y a ci, puis de l'autre côté, il y a l'extrême droite, j'ai l'impression que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Pour moi, mettons, ce qu'on appelle la droite plus conservatrice, il faut être plus en résistance, si on veut. Puis souvent, je constate que la plupart des auteurs, des penseurs, politiciens qui sont plus dans cette frange-là, sont quand même assez ouverts à la discussion et aux idées, quand même. Même s'ils ont pour leurs propres convictions. Et pour moi, ces gens-là vont aussi se retrouver avec ce que j'appelle souvent la gauche anti-woke. Donc, c'est les gens qui disent, ben, j'entends souvent ça, des gens qui me disent, ben, pour moi, la vraie gauche, c'est défendre les travailleurs, c'est défendre les gens démunis. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que, face à la polarisation des débats, cette droite conservatrice et cette gauche anti-woke se rallient sur l'essentiel pour dire, ben, là, il faut défendre le peuple au lieu de toujours être dans les luttes, les petites luttes identitaires qui n'en finissent plus.
Ah, pour mettre un peu en contexte, avant de passer la parole à Philippe, l'autre Philippe ouais, Léger sur le sujet, c'est, on va prendre l'exemple en France où le chef du Parti communiste, Fabien Roussel, qui défend un peu cette gauche traditionnelle des travailleurs face à la mondialisation, est considéré comme quelqu'un qui n'est pas de gauche, car il refuse un peu de se soumettre totalement au dogme de la nouvelle gauche, représenté par exemple par la direction de la NUP, par l'élection plutôt de la France Insoumise, qui est le parti majoritaire dans la NUP. Philippe, qu'est-ce que tu penses de cet aspect de tenaille identitaire? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur des débats actuellement au Québec, par exemple avec les oppositions qu'on a eues la semaine dernière sur les dragues, et même cette semaine encore.
Bon, plusieurs choses aussi. Sur la tenaille identitaire, moi, c'est une théorie politique que je peux trouver légitime à bien des égards. Bon, sur le wokisme, sur le pouvoir hégémonique qui serait détenu par les woke, moi, je mettrais quand même certains bémols à ça. C'est sûr qu'il y a dans certains milieux, bon, ce qu'on appelle une gauche woke, la nouvelle gauche, peu importe comment on la nomme, elle peut avoir une certaine prévalence, bien sûr. Mais par contre, quand on regarde les résultats politiques dans la plupart des élections, dans la plupart des pays occidentaux, les élections tendent à prouver que ceux qui remportent des élections, bien souvent, ceux qui ont le vent dans les voiles, c'est plutôt, disons, la tendance plus conservatrice dans les élections. Quand on regarde le résultat électoral, c'est-à-dire qu'il y a une certaine appui, une certaine hégémonie de ces différents courants de pensée-là. On peut les nommer, là, le mouvement conservateur est différent dans chaque pays. Il y a des significations partout un peu différentes, que ce serait bien souvent maladroit de comparer Trump, le conservatisme de Trump avec le conservatisme de Pierre Poilievre et le conservatisme, si ceci en est un, de François Legault. Ce serait complètement, en fait, ce serait une erreur d'analyse complètement assez flagrante politiquement. Bon, ceci étant dit, moi, ce qui me fascine, et ça va peut-être faire écho à mon texte, parce que je voyais quand même dans la réaction, et là, ça va peut-être faire répondre à Philippe Lorange sur la tenaille identitaire, je voyais dans la réaction à mon texte, une confirmation même de mon texte, parce qu'on me reprochait sur les réseaux sociaux, sur différentes façons, ou des amis en message privé, les deux délégitimisaient mon texte en disant essentiellement que je mettais dos à dos des courants qui ne se valaient pas. Du côté du progressisme, on me disait, ah, tu mets à dos un clivage entre tolérant et intolérant. Je me dis, bon, c'est un drôle de clivage pour voir la politique. Du côté conservateur, je mettais justement dos à dos une tenaille identitaire qui ne se tenait pas aussi en même temps. Les deux côtés me reprochaient essentiellement la même chose, et je trouvais ça assez particulier, cette confirmation du texte dans la critique du texte.
Voilà. Et sur, la, sur un autre aspect, on a pu voir autre idée de débat, autre idée peut-être qui s'est passé en France aussi. De récemment, le journaliste Hugo Clément qui se rend au grand débat de valeurs actuelles la semaine dernière pour parler avec Jordan Bardella d'écologie. La gauche lui est tombée dessus, lui disant qu'il devenait un écolo-fasciste en venant parler d'écologie, en venant parler, en ouvrant le débat, lui considérant que l'écologie doit être ouverte à tous les... À, étant donné que ça concerne tout le monde, ça doit être ouvert à tout le monde. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le débat politique. Est-ce que c'est problématique, Philippe?
Ah ben justement, ça me fait penser, ben, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que précisément, si quelqu'un de gauche va à Valeurs actuelles, justement une revue plus à droite, mais là, justement, il se fait reprocher parce qu'on lui dit, ben là, vous fréquentez des infréquentables. Mmh. On lui dit, ça se fait pas, vous êtes en train de légitimer un discours extrémiste dangereux. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'inverse, un Jordan Bardella qui va faire un débat avec Sandrine Rousseau n'importe quoi, ben il va pas se faire reprocher. Il y a personne à droite qui va lui reprocher de légitimer le discours de gauche parce qu'il est déjà très légitimé. Mais justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Léger. parce que je suis parfaitement d'accord pour dire qu'en effet, le populisme ou le conservatisme peuvent gagner la joute politique, même souvent ça se fait, c'est un constat objectif. Mais justement, ils gagnent politiquement parce que là, c'est la majorité silencieuse qui peut s'exprimer. Là, c'est pas les institutions, si on veut. C'est pas les médias, les universités. Là, c'est vraiment le peuple qui peut voter par la majorité. Et je crois que c'est ce retour d'un conservatisme ou d'un populisme est justement peut-être en réaction au fait que de plus en plus, il y a une morale dominante qui est beaucoup, pas forcément woke radical, mais parfois, ça peut être bien pensante. Et parfois, moi, je fais la différence entre ces deux camps-là. Les woke, des fois, c'est comme ça va très loin. Tandis que c'est comme le café sans lait, sans sucre. Tandis que la bien pensante, c'est bon, un lait, un sucre. Mais dans les deux cas, il n'en demeure pas moins que c'est des logiques, des matrices qui sont très similaires, si on veut. Et qui sont, à mon avis, très dominantes dans les institutions. Puis la joute politique, le système démocratique, c'est le milieu où, là, il y a une majorité silencieuse qui peut encore s'exprimer et qui, de toute évidence, à mon humble avis, exprime son mécontentement vis-à-vis de la tournure qu'il y a eu dernièrement.
Qu'est-ce que tu penses, Philippe Léger?
Deux choses ici. D'abord, moi, j'ai pas l'impression que je fais partie de cette bien-pensance.
Ah non, c'est pas ça que je dis.
et si j'en fais partie, au moins, peut-être je pense bien, mais aussi j'essaie de penser librement, aussi hors de toutes les étiquettes, parce que pour moi, un des défauts de ce clivage-là qu'on observe, c'est que je sens dans la place publique de plus en plus de gens qui pensent contre l'autre, en fonction de l'autre ou en fonction de leur propre camp. Et ça, pour moi, c'est un peu la fin d'une certaine pensée, une fin d'une certaine liberté dans l'espace public quand on ne fait qu'écrire. Et ça devient un peu plate quand, d'ailleurs, le débat public devient un peu, justement, un peu ennuyant quand on sait déjà ça va être quoi la conclusion d'une chronique parce qu'on veut plaire à un côté ou à un autre. Pour moi, il y a une certaine forme de fin de la pensée ici qui, moi, ne m'intéresse pas particulièrement comme chroniqueur ou comme journaliste. Et moi, je contesterais aussi quand même cette hégémonie qu'on dit woke ou nouvelle gauche dans les médias, dans les institutions médiatiques. Il y a quand même, dans les médias, il y a de la place pour, disons, il y a une droite conservatrice, il y a de la place pour une gauche woke. Là, maintenant, je sais que l'argument sera oui, mais c'est pas dans une société d'État. Mais je veux dire, même dans la société d'État, pour moi, il y a quand même de la place pour des gens qui portent un discours qui peut être celui de la bien-pensance. Je pense que j'ai quand même une place à Radio-Canada, puis je veux dire...
Il suffit d'aller voir les mordus politiques, on voit un peu toutes ces opinions représentées.
Exactement, peut-être qu'il y a certains endroits où c'est moins représenté, mais il y a d'autres endroits où c'est représenté.
Philippe Lange, sur ces questions.
Mais en effet, je suis d'accord qu'il y a toujours une place quelque part, parce qu'on n'est quand même pas en dictature non plus. Mais...
Peut-on parler d'hégémonie ici, dans ce cas-là?
Oui, je crois quand même, parce que si vous avez, par exemple, 80% de vos invités qui pensent comme l'animateur, puis vous avez comme un 15-20% peut-être moins qui vont contester ou qui vont avoir une position plus nuancée, ben il y a une telle chose qu'une hégémonie. C'est-à-dire, pour moi, Radio-Canada ou d'autres médias qui prescrivent la morale dominante, ce qu'ils font, en fait, c'est l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que oui, ils peuvent avoir quelqu'un qui pense différemment, qui a un point de vue plus nuancé, plus de centre ou de droite, mais ça va être toujours quelqu'un qui va être isolé, qui va être encerclé par d'autres, finalement. Puis parfois, ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont authentiquement ouverts. Il y a eu déjà des animateurs de radio à Radio-Canada qui étaient des gens très ouverts, qui aimaient le débat d'idées et tout ça. Mais là, en même temps, je ne vais pas faire non plus l'attaque en règle contre un média en particulier. Pardon, oui.
Mais prenons l'exemple pour aller contre ton point. Je ne sais pas ce que tu penserais ça. Prenons l'exemple un peu de ce qui est souvent parlé de l'affrontement entre Émilie Nicolas et Mathieu Bock-Côté qui avait eu à l'émission de Patrice Roy il y a quelques mois. énormément de personnes s'étaient plaints disant que c'est honteux que Mathieu Bock-Côté soit invité à l'émission de Patrice Roy. Patrice Roy s'était expliqué en expliquant mais c'est une idée normale. Il y a des normes et pratiques journalistiques à respecter. Mmh. On doit être neutre. On ne doit pas afficher une opinion de manière trop prééminente sur un plateau. Certes, il y a la charte de Radio-Canada que certains proposent de modifier où on parle de il faut valoriser le multiculturalisme canadien, la diversité canadienne. Ça fait partie de notre mission, mais c'est une mission que le gouvernement demande à Radio-Canada de faire parce que c'est censé représenter ce qu'est le Canada en globalité, un pays multiculturel. La sorte, donc, est-ce que ça vend un mindset, quelque chose d'extrêmement, une pensée dominante, ou plutôt c'est juste une question de charte, une question de mission telle que le gouvernement lui demande?
Ben c'est certain, ben c'est moi, c'est difficile à dire.
On
parce
est dans
que,
la neutralité. Bon,
Radio Canada quand même, je pense que quand même Radio Canada a une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement canadien malgré ce qu'en dit Twitter.
Mais il l'a enlevé en plus. Plus maintenant, il l'a enlevé.
Mais même s'il y a une indépendance, il y a une telle chose qu'une idéologie dominante. Qui, moi, quand j'allume la radio, puis je mets ça à Radio-Canada, ben, très souvent, j'entends des débats sur, mettons, les drag queens, des choses comme ça. Puis toujours, ça va dans un seul sens, pour dire les drag queens devraient avoir absolument le droit de toujours faire leur compte. Puis on est toujours dans la déconstruction des genres, puis toujours, on est toujours dans une seule manière de penser. Puis seulement une fois de temps en temps, on va aller voir quelqu'un qui pense un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que je parle surtout d'opposition contrôlée. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une hégémonie comme telle, parce que oui, on laisse passer quelques-uns, mais en temps normal, il y a vraiment des gens qui prescrivent la morale.
Philippe Léger, qu'est-ce que tu penses de ça?
Qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je pense qu'il y a des enjeux, par exemple, pour le Québec. Par exemple, les drag queens. Pour moi, ça, c'est pas véritablement un enjeu. Il n'y a aucun problème, aucune histoire qui est sortie de nos écoles où ça pouvait être problématique. Et c'est le propre un peu de la guerre culturelle, la surpolarisation. C'est d'avoir l'importation de concepts américains ou de problématiques américains ou français, des fois, qui n'ont aucun rapport avec la réalité québécoise. Et moi, je remarque que des deux côtés, si on est pour reprendre la tenaille identitaire, des deux côtés, on importe d'abord souvent des enjeux américains et de l'autre, on importe bien souvent des enjeux français qui ne sont objectivement pas des enjeux qui ont, disons, leur prévalence, place. Qui peuvent exister ici là, au Québec, mais qui n'ont pas de prévalence et qui ne prennent pas autant de place de ce que certains disent. Et moi, je m'inquiète véritablement de ce climat-là de guerre culturelle au Québec. Pour la première raison est assez simple. Pour une petite société, ici en France, ce climat-là peut exister, ou si aux États-Unis, ce climat-là peut exister, bon, c'est leur choix, c'est leur situation. Mais au Québec, on est quand même, il ne faut pas l'oublier, dans une situation de petite nation qui n'a pas véritablement le choix de l'émiettement, de la fragmentation, de la division, de la fracture au sein de la société. Et je m'inquiète d'autant plus, disons, pour le mouvement souverainiste qui voit dans cette guerre culturelle-là, moi j'ai beaucoup l'impression que la bataille identitaire et cette guerre culturelle-là, disons, est au-dessus de la bataille ou du clivage souverainiste. Et il y a bien des souverainistes qui devraient en prendre compte et devraient comprendre qu'encore à ce jour, il y a une longue tradition de souverainistes qui ne s'identifient pas ou qui ne sont pas des fervents, disons, qui n'appartiennent pas à la droite conservatrice ou identitaire, peu importe comment on la nomme, et qui, dans ce fait-là, exclut des gens qui seraient favorables à la cause souverainiste. Et le débat de l'époque devient le débat identitaire plutôt que le débat souverainiste. Et à terme, ce que ça risque de créer, ce que j'observe, c'est l'émiettement et d'une certaine façon la fin du Parti québécois. Parce que dans ce contexte-là, à quoi sert le véhicule du Parti québécois? Ce n'est qu'être un groupe de pression souverainiste à l'Assemblée nationale, parce que tout l'air, tout l'oxygène politique de cette guerre culturelle-là, donc d'un côté, disons, une certaine, comme on l'a nommé, mais de ces deux côtés-là, je dirais plutôt que ce serait complètement la Coalition Avenir Québec qui réussit à incarner le nationalisme aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une erreur historique du mouvement souverainiste que d'avoir essayé de transposer et de plaquer le débat identitaire au débat souverainiste.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Philippe?
Plusieurs choses, mais ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Parce que dans le cas du Parti québécois, par exemple, sous Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai l'impression que, bon, c'est pas quelqu'un qui est conservateur comme tel, mais c'est quelqu'un qui assume son indépendantisme et qui assume aussi que le nationalisme est forcément identitaire. Et depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon est là, les intentions de vote pour le Parti québécois ont augmenté. Alors que, depuis 20 ans avant PSPP, le discours qui était dominant chez les apparatchiks du Parti québécois, chez le nombre de militants, c'était de dire ben là, si on est trop identitaire, si on est trop ci, trop ça, ben là, on va exclure, il y a des gens qui vont trouver ça, que ça va trop loin, etc. Donc, il faut axer notre discours sur l'environnement, les jeunes, le progressisme. Mais la réalité nous montre que cette stratégie a mené à un déclin réel du Parti québécois, de telle sorte que, en 2018, ça a été une catastrophe totale pour le Parti québécois. Après, il y a d'autres facteurs aussi. Je suis parfaitement conscient. Mais depuis que le Parti québécois renoue avec certaines racines, comme l'indépendance comme un vrai combat comme tel, et un combat qui n'est pas simplement pour l'environnement ou les jeunes, même si évidemment ça compte, mais qui est un combat pour le français, nos valeurs, l'identité nationale, puis évidemment qui est parfaitement inclusif, eh bien, le Parti québécois est en augmentation. Parce que l'essentiel des votes du Parti québécois sont surtout à la CAQ et non à Québec solidaire. Et c'est le propos notamment d'Étienne-Alexandre Beauregard dans son livre « Le schisme identitaire » qui montre que le nouveau schisme, si on veut, le nouveau clivage au Québec, c'est plus entre libéraux, Parti québécois, c'est plus fédéraliste, souverainiste, malheureusement. C'est ça. Mais c'est entre nationalistes, comme CAQ, PQ, ou multiculturalistes, entre QS et PLQ. Et moi, j'adhère à cette idée que c'est ce clivage-là dans lequel on est. Et en ce sens, je crois que c'est une bonne chose que le Parti québécois ait un discours quand même un peu plus, si on veut, nationaliste identitaire, sans forcément être, exclusivement conservateur. Je pense que le Parti québécois demeure quand même un parti résolument progressiste à bien des égards et qui a encore beaucoup de militants de toute tendance. Je pense qu'il faut justement pas faire l'erreur. J'aime pas tant la notion forcément de guerre culturelle, parce que on est dans l'idée que là, justement, on se parle plus, puis là, on est juste dans le combat. Alors que peut-être, justement, on peut se réunir sur des causes essentielles, comme par exemple pour le Parti québécois, l'indépendance, puis pour d'autres partis, ça va être d'autres causes. En tout cas.
Moi, je rajouterais quelque chose là-dessus. Sur le Parti québécois, on pourrait arguer très, très longtemps que le 9 à 18 % qui a été essentiellement la montée du Parti québécois à la dernière élection, ce n'est que du rattrapage. La deuxième chose, moi, ce que je crains, pour préciser mon propos, c'est, et pour reprendre l'image de Jacques Parizeau, dans les années 1969, prenait le train de Montréal à Banff, et à Montréal, il était fédéraliste, et à Banff, il devenait souverainiste. C'est la légende de Jacques Parizeau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des égards. Cette guerre culturelle-là crée l'effet inverse, c'est-à-dire que bien les jeunes qui s'identifient, qui seraient totalement, prompts ou auraient une certaine sensibilité à la défense de la langue, mais que bien les jeunes, devant cette guerre culturelle-là, décident de prendre le train, mais de façon inverse, qui serait souverainiste et deviennent peu à peu fédéralistes. Et moi, si j'étais le Parti québécois, c'est ça qui me hanterait davantage que n'importe quelle autre question.
Le récent sondage, je ne sais plus si c'est ton père qui a fait ce sondage ou quelqu'un d'autre qui montrait que la majorité des jeunes québécois se considèrent plus comme fédéralistes maintenant ou non affiliés à une idée nationaliste.
Mais là-dessus, j'y mettrais quand même un doute. Parce que, peut-être qu'ils disent qu'ils votent non ou ne sait pas, par exemple, parce que là, on prend c'est un oui, non. Ouais. Bien sûr, la question référendaire, là, oui, non, ne, je ne sais pas, je préfère ne pas répondre. Moi, j'y mettrais un doute. Moi, j'ai l'impression que, étant donné qu'une partie de la jeunesse québécoise n'a jamais véritablement été socialisé à la question de l'indépendance, c'est qu'ils n'ont pas véritablement de réponse très, très claire à cette question-là. Et quand on n'a pas de réponse très, très claire à cette question-là, le statu quo devient l'option normale et l'option privilégiée quand on n'est pas, disons, habitué ou on n'a pas été socialisé à ce débat-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une dynamique d'effet miroir, qu'il y a beaucoup de jeunes Québécois qui ont une pensée miroir vis-à-vis leur filiation. C'est-à-dire qu'étant donné que c'était le combat des parents, ça devient un combat d'arrière-garde, un combat qui est un peu dépassé. Et c'est un peu de cette façon-là que le non chez les jeunes est majoritaire. Est-ce que si aujourd'hui ou demain ou après-demain ou après-après-demain, il y avait un débat référendaire où la question référendaire redevenait centrale à notre vie politique, est-ce qu'il y aurait autant de jeunes qui voteraient non? Pour moi, ça reste un mystère et boule de gueule.
Et revenons un peu sur cet aspect de guerre culturelle. Mais quand on voyait récemment donc les deux gros sujets de guerre culturelle, donc la CBC avec Radio-Canada et la question des dragues, ce sont deux éléments importés médiatiquement par des partis conservateurs pour tenter de faire du bonus, des points politiques. Mais deux éléments qui sont assez importants pour une certaine partie de la base. Par exemple, dans le cadre du Parti conservateur du Québec, on sait que cette question des dragues a été importée alors qu'Éric Duhaime a un vote de confiance à faire. Et donc, il avait une nécessité à réaffirmer son leadership par l'intermédiaire d'éléments de sa base que certains considéreront comme extrémistes, des Samuel Grenier et d'autres éléments qui sont ses principales personnes qui ont poussé à l'importation de ce genre d'éléments. Et est-ce qu'il y aurait un manque de discernement de la part de certaines personnes, de s'être laissé avoir et d'avoir augmenté de manière beaucoup trop forte ce genre de discours, participant au discours politique et participant un peu au maintien de la base par les chefs?
Je pense que, il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, les médias, et moi compris, là, je ne fais pas exception de ça, je ne me retire pas de ça. Je pense que plusieurs devraient se questionner sur le traitement, disons, omniprésent d'Éric Duhaime qui le fait exister médiatiquement sur des questions comme l'importation des enjeux de drague ou de transgenre ici qui n'a jamais véritablement eu sa place. Puis je noterais aussi ça au passage. Sur toute la question woke, il me semble qu'au Québec, il y a une résistance à cette nouvelle gauche-là, la nouvelle gauche woke, sur, disons, les questions un peu plus culturelles. Mais quand on regarde sur les enjeux liés aux droits des communautés LGBT, si on regarde les enjeux liés aux transgenres, aux drag queens, il n'y a pas véritablement de résistance au Québec. Sur ces questions-là sociales, il y a un progressisme québécois qui est très, très une exception nord-américaine. Et c'est pour ça que moi, quand je vois Éric Duhaime essayer d'importer cette question-là, je suis un peu exaspéré de cette façon-là. C'est sûr que pour moi, c'est avant tout politique plutôt qu'une conviction personnelle d'Éric Duhaime.
Ben moi, justement, je constate que la posture progressiste sur les questions sociétales, mais quand je dis sociétales, ça veut dire les enjeux éthiques comme justement trans, tout ça. Je pense, ben, certes, elle est légitime, cette posture, mais je pense pas que c'est une bonne chose qu'elle soit consensuelle et unanime. D'autant plus que, institutionnellement et dans la joute politique, elle semble unanime, mais chez le commun des mortels, c'est pas si unanime que ça, ces questions-là.
Tu prendrais par exemple la tangente de Sophie Durocher, ta collègue chroniqueuse de journal, sur la question de recherche du gros bon sens, par exemple, quand elle choisit de discuter non pas de la question des dragues, mais de la question, par exemple, du tweet de la Bagne qui parle de théorie du genre et ce genre de choses.
Oui, mais justement, on voyait récemment le Parti libéral du Québec nous dire « faut plus parler de femmes enceintes, mais personne enceinte », c'est ça, je pense, le débat. Mais là, il y a quand même des
personnes porteuses.
C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a d'autres débats extrêmement importants. Mais à un moment donné, il y a une telle chose qu'il y a des théories qui sont importées des États-Unis. Donc, évidemment, on est un petit peu obligé de parler des courants américains parce que, bon, ils s'imposent d'eux-mêmes. Et je pense pas qu'être unanime ou consensuel sur ces questions-là soit une bonne chose. Pour moi, la démocratie, c'est savoir se diviser. Donc, Éric Duhaime, je pense qu'il a fait un coup très intelligent, que je ne vais pas forcément non plus appuyer à 100%. Mais il a eu l'intelligence de se dire, mon parti conservateur à moi, il carburait à la contestation des mesures sanitaires. Et là, évidemment, c'est un peu fini, la pandémie. Donc là, mais il reprend quand même la même logique de se dire, je vais briser un dogme consensuel au Québec, parce qu'il sait que chez le commun des mortels, il y a des questions qui se posent sur des questions sociétales, comme justement les mesures sanitaires. Mais là, vu que c'est un peu fini, mais là, il peut reprendre la même logique, la même stratégie sur des questions comme, justement, les drag queens, n'importe quoi. Et à un certain point, je pense que sa présence peut apporter quelque chose de sain dans le débat public, parce qu'il montre que on peut relativiser, on peut se poser des questions qui sont parfaitement normales sur des questions de savoir, est-ce que c'est normal qu'on dise maintenant des personnes enceintes? Est-ce que, par exemple, chez les drag queens, est-ce que dans les contes qui sont racontés, est-ce que parfois il peut y avoir de la propagande pour la théorie du genre? On peut se poser ces questions-là.
Mais est-ce que le briser de cette manière, c'est être responsable? Parce que la manière comment c'est la responsabilité, je veux dire que nous, on discute, on peut se dire qu'on va penser de telle ou telle sorte, on va faire la part des choses, mais est-ce que d'autres gens sont capables de faire ça? Philippe Léger?
Bon, moi, deux choses ici. D'abord, sur la question de la division en démocratie, bien sûr. Une démocratie, c'est le respect civilisé, c'est le dialogue civilisé, mais il y a aussi le mot dialogue en démocratie. Puis je ne suis pas sûr que la façon dont Éric Duhaime colporte ce débat-là, il y a véritablement un terrain fertile au dialogue démocratique censé appuyer sur le réel, appuyer sur des faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième, écoutez, la réaction à M. André Morin, député d'Acadie, sur le personne porteuse, ou de femme porteuse, il n'y a pas eu de levée de bouclier au Québec. Tout le monde s'est un peu dit, écoute, il n'y a pas véritablement de débat ici. À mon sens, j'ai pas vu de chronique ou de grandes envolées oratoires de gens qui disent, de grandes envolées sur Twitter, de gens qui disent essentiellement que Simon-Jolin Barrette et la CAQ est complètement transphobe d'être un peu pantois face à cette façon-là de qualifier quelqu'un qui est enceinte ou pas. Ça me semble que on peut pas prendre d'un côté dire le drag queen, c'est essentiellement quelque chose. Il faut parler de l'idéologie trans. Il y a le débat sur les drag queens, il y a le débat sur ce que dit M. Morin. Et pour moi, ce sont deux choses différentes et la réaction a été différente dans les deux cas.
Et la réaction dans les deux cas a montré qu'on était quand même assez prêts. On comprenait où ça s'en allait. On savait qu'on voyait le point de vue québécois. C'était pas un point de vue aussi basé sur l'affrontement tel qu'il existe aux États-Unis ou tel qu'il existe en France. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.